HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre monde, autre zone. Un écho des luttes à retrouver tous les deux mois sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde,
autre monde, autre zone.
Autre zone.
Bonjour Agnès, bonjour à tous. Attaque participe à approfondir la démocratie pour construire une Europe solidaire et pour placer l'altermondialisme et la solidarité au cœur des relations internationales. Dans ce cadre-là, Attaque France, avec d'autres associations, d'autres organisations, est à l'origine d'universités d'été, des mouvements sociaux et des solidarités, autrement appelée l'UMS, en France et en Europe.
Bonjour Pierre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Tous les deux mois, l'association Attaque 44 vous donne rendez-vous autour d'un sujet d'actualité. À travers une série d'émissions radio, notre objectif est de donner accès, ouvrir et sensibiliser les auditeurs et auditrices aux enjeux sociétaux autour desquels Attaque 44 se mobilise. Plusieurs sujets d'émission avec plusieurs animateurs et animatrices. Et pour cette émission, ce sera Pierre Sonnet et moi-même, Agnès Moussion. Alors aujourd'hui, nous proposons une émission sur l'Université d'été européenne, l'ESU de Mönchengladbach, consacrée aux mouvements sociaux et solidaires. Des entretiens réalisés avant et après l'ESU permettront de comprendre l'organisation d'une université européenne et de découvrir la variété des luttes présentées lors des forums et des ateliers. Pour commencer, trois témoignages altermondialistes et militants d'Attaque France, Verven Angeli, Michael Tellman et Annick Coupé.
Sur la question de savoir en quoi c'est important d'avoir une université des mouvements sociaux, c'est quelque chose qui est extrêmement riche du point de vue des échanges militants et je dirais de pas simplement en termes d'échanges, de discussions, de débats, etc., mais y compris d'un certain nombre de promesses, de rapprochements, de possibilités nouvelles d'action commune. Et alors c'est toujours difficile de savoir si ça fonctionne, ces rapprochements immédiatement après que ces universités ont eu lieu. Mais je dirais que pour ce que je vois moi, par exemple, sur des thématiques, que ce soit les liens entre l'écologie et le social, par exemple, ou les liens entre les mouvements sociaux de manière générale et les mouvements antiracistes, pour lesquels ces liens n'étaient pas toujours totalement évidents, je trouve que les deux universités des mouvements sociaux qu'on a eues en France, donc à Grenoble et à Nantes, ont vraiment marqué des points importants de ces possibilités de discussions communes, d'engagement à travailler ensemble, etc. Et que ça progresse de manière générale dans la société française. Mais en tout cas, du point de vue de l'avenir de l'Europe, ça me semble important de retisser des liens et d'être capable de discuter de quelle Europe on veut, c'est quoi nos revendications, nos préoccupations, tant du point de vue de ce qui se dessine, du point de vue militaire, institutionnel, économique, etc.
L'histoire des universités d'été, des mouvements sociaux, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, Attaque en France est créée il y a un peu plus de 20 ans et très rapidement, il y a eu l'idée de faire une université d'été d'Attaque en tant que telle. Donc il y a eu un certain nombre d'universités d'été d'attaques en France, mais assez vite aussi s'est posé la question de faire une université d'été à dimension européenne. Et je crois que la première a eu lieu à Paris en 2014. L'université d'été des mouvements sociaux au niveau européen s'inscrit aussi dans l'histoire d'une certaine façon du mouvement altermondialiste et avec les forums sociaux européens qu'il y a eu entre 2000 et 2010 en Europe. Alors c'est évidemment pas tout à fait la même chose, on n'est pas dans le même contexte, mais quand même cette idée qu'il faut essayer de faire travailler les mouvements sociaux ensemble au niveau européen, c'était évidemment quelque chose de très important pour les forums sociaux. Et quelque part, je pense que c'est cet enjeu aussi qui est toujours présent.
Comme Annick a déjà prononcé, l'idée des U22 était de dépasser des discussions dans les mouvements sociaux sur le niveau national envers des projets dans le mouvement, par exemple des actions au COP26 à Glasgow ou pour la Journée européenne des actions de logement, traditionnellement le 27 mars, ou connecter les luttes dans les hôpitaux dans toute l'Europe. Mais malheureusement, nous n'étions pas capables de développer une dynamique pour arriver vraiment aux actions ou activités internationales européennes. Et c'est pourquoi cette université d'été maintenant est très importante pour développer le dialogue entre les mouvements sociaux. Les revendications dans les différents pays sur le champ de santé, logement, climat sont presque les mêmes. Et aussi beaucoup des analyses des mouvements sociaux sont comparables. Mais les mouvements sociaux, avec quelques exceptions, ne connaissent pas les autres mouvements dans les autres pays. Par exemple, la lutte dans la santé en Allemagne est organisée par les syndicats, mais le syndicat européen n'organise pas vraiment un échange des luttes dans les hôpitaux en France et en Allemagne.
On a réussi à ce qu'il y ait des organisations qui, historiquement, n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, comme les organisations syndicales et, par exemple, des grosses ONG sur le climat. Je pense que cette affaire des alliances entre mouvements sociaux, c'est une question clé pour l'avenir, et évidemment pas seulement en France, au niveau européen, mais aussi dans chacun des pays. Donc, je crois que cette question d'apprendre, de connaître, je pense que ça peut aussi nous rendre plus forts chacun dans nos pays après de telles rencontres.
Il n'est pas possible, sur une heure d'émission, de présenter la multitude des luttes, mais nous allons mettre en perspective certaines d'entre elles pour montrer leur diversité. Un exemple avec le transport maritime, un entretien réalisé par Alexandra de Jet FM pour l'émission Au flux et à mesure.
Nous poursuivons maintenant avec un écho de l'Université des mouvements sociaux et des solidarités qui se tenait fin août à Nantes. Dans leur programmation, une conférence intitulée « Le transport maritime, danger public et bien mondial ». Un choix de thème effectué notamment par Christian Tholin et Christophe Galen, tous deux militants d'Attaque Saint-Nazaire.
Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème ?
Moi, je peux dire qu'en tant que comité local de Saint-Nazaire, on a une façade ouverte sur l'Atlantique avec un port de construction navale et un gros trafic maritime.
Tout ce qui se passe dans le transport maritime depuis 5 siècles se transpose après sur Terre petit à petit, hors Attaque. Nous sommes les altermondialistes pour une autre mondialisation, une mondialisation sociale et juste.
Alors quand on parle de mondialisation, 90% du commerce international qui passe par le fret maritime. En vous écoutant, donc, j'ai appris que c'était à peu près 150 000 navires, 1,5 million de travailleurs.
2 millions, vous voyez, c'est corrigé les données saisonnières.
Et alors, le cœur de votre propos aujourd'hui, c'était était centré sur les conditions de travail et d'exercice pour ces 2 millions de travailleurs. Et pour cela, vous avez convié à vos côtés Laure Talonneau, qui est inspectrice pour l'ITF. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'ITF ?
Donc l'ITF, c'est une fédération internationale de syndicats de transport, donc y compris marins, qui agit à travers le monde pour garantir, promouvoir les droits des marins. Donc sur tous ces navires battant pavillon de complaisance.
Quel est le pourcentage de navires sous pavillon de complaisance ?
70% de la flotte est sous pavillon de complaisance. C'est le Panama, le Liberia, Marshall Island, Bahamas.
Et donc vous êtes chargé d'inspecter ces navires de marchandises et vous êtes basé en Bretagne. Donc, ce qui veut dire que vous inspectez des cargos où ? Lorient, Brest ?
C'est ça, Brest, Lorient et Saint-Malo principalement.
C'est une forme d'inspection du travail ?
Oui. C'est une forme d'inspection du travail, en fait, qui a été mise en place par nécessité, puisque à un moment donné, il y a eu forcément beaucoup d'abus et des équipages esclaves. Et comme l'État n'a pas voulu s'en occuper, il a bien fallu que donc, les syndicats, qui est aussi, c'est aussi leur rôle, hein, prennent en charge en fait, ces marins et assurent leur protection.
Ouais. Qui sont ces 2 millions de marins aujourd'hui ?
Alors, ils viennent donc de Chine pour les officiers, principalement, et des Philippines et d'Asie, en fait, pour le personnel d'exécution. Donc, principalement, donc, des pays où la liberté syndicale n'est pas reconnue, des pays très pauvres, en fait. Comme ça, on s'assure de marins qui ne se plaignent pas et qui ont des conditions de travail désastreuses.
C'était Alexandra de Jet FM, maintenant direction Lézu et Mönchengladbach en août 2022. De nombreux témoignages y ont été enregistrés de participants, participantes, des bénévoles, d'intervenants et d'intervenantes.
On commence avec Adèle, Sauve et Véronique, venues pour découvrir, apprendre et partager. Nous sommes dans les locaux de l'ESU, dans le patio, à l'intérieur et l'environnement est parfois un petit peu bruyant.
Bah, je m'appelle Adèle, j'ai 18 ans, je viens de Paris. J'ai adhéré à TAC il y a quelques mois et je suis ici parce que j'aimerais m'instruire et comprendre les problèmes et donc les enjeux actuels de notre société et pouvoir avoir quelques idées d'éventuelles réponses à apporter à ces enjeux et surtout les modes d'action qui nous permettront d'obliger les pouvoirs en place à aller vers ces solutions parce que j'ai conscience qu'aujourd'hui ils n'ont absolument aucun intérêt à ne serait-ce qu'envisager les changements auxquels on aspire et du coup je désire apprendre comment on pourrait les faire plier.
Alors moi c'est Sauve, donc je fais partie de Extinction Rebellion, qui est un mouvement de désobéissance civile pour l'environnement et le climat. Et je suis venu ici parce que déjà le programme était intéressant, parce que j'ai vu plein de conférences et de workshops qui avaient l'air très très intéressants et qui malheureusement il y en a certains qui beaucoup qui se chevauchent et du coup il va falloir faire des choix. Mais du coup je suis là pour en apprendre un peu plus sur ces sujets et puis peut-être me diversifier aussi sur des sujets sur lesquels j'ai pas trop de connaissances préalables.
Moi je suis Véronique et je suis à Tacrène. Voilà. Pourquoi je suis là ? Je suis là un petit peu pour me remonter le moral. Parce que c'est vrai que la situation actuelle est quand même assez déprimante. On a l'impression de se battre contre des moulins. On a un mur devant nous, c'est abominable. Et venir à ce genre de réunion, alors que ce soit les universités d'été ou encore mieux les forums sociaux mondiaux, on rencontre plein de gens qui sont comme nous, qui se battent comme nous pour la même chose, qui ont le même but. Ça fait du bien.
D difficile d'imaginer les luttes sans musique et chansons. Le texte que nous allons entendre accompagne les luttes des tisserands en 1884. Il est ici interprété par Marc Augeret. Et ce texte sera suivi d'un entretien avec Dominique Plion sur le capitalisme.
Chantez Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Chantez Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, gens de l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Gouverner, il faut avoir manteaux et rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans draps, on nous enterre. C'est les canuts, nous sommes tous nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde. Et l'on entend déjà la révolte qui gronde.
Je suis Dominique Plion, économiste, universitaire, à la retraite maintenant, donc membre d'ATTAC depuis sa création. Et en particulier, j'ai beaucoup travaillé dans le cadre du conseil scientifique d'ATTAC. Et j'ai aussi pas mal de contacts avec des camarades d'ATTAC européens, que ce soit ici en Allemagne, mais aussi en Autriche, en Italie et en Espagne, etc. Donc voilà, je me considère comme aussi un altermondialiste, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye d'avoir une vision et, si possible, une action internationale, de solidarité internationale. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu cette plénière, ce forum à l'université sur le capitalisme, parce que c'est le système dominant, le système économique qui domine sur la planète aujourd'hui et qui pose des problèmes depuis toujours, d'ailleurs depuis sa création, mais aujourd'hui particulièrement parce qu'il est en crise profonde et une crise de nature sociale, par exemple. Il exacerbe les inégalités, il exacerbe aussi la crise écologique dont il est en partie responsable, parce qu'en fait, c'est un système qui est fondé sur l'exploitation, on pourrait même dire la surexploitation du travail et du capital, et de la planète, le travail et de la planète, et ressources naturelles. Et donc, précisément, c'est ce capitalisme-là, cette surexploitation du travail, conduit à la précarisation du travail, aux inégalités sociales, etc., et de la planète qui conduit à la crise écologique. Et donc, j'ai essayé d'expliquer pendant ce forum avec mes collègues qu'il fallait absolument lutter contre ce système depuis que nous existons. En fait, l'idée, c'est que il ne s'agit pas de dire on va du jour au lendemain détruire le capitalisme, mais il est plus intéressant de regarder comment on peut faire évoluer le capitalisme avant qu'il disparaisse. L'idée, c'est que quand on regarde l'histoire, on voit que le capitalisme, depuis sa création, alors on peut la faire remonter au XVIIIe siècle, la première révolution industrielle. Marx faisait plutôt ce genre de choses, même on peut remonter avant. Hein. Et puis, jusqu'à maintenant, il y a eu des étapes. Il y a eu, par exemple, au siècle dernier, un capitalisme beaucoup plus social, qui était le capitalisme de l'après-guerre, qui a été créé, qui a résulté de la crise des années 30, où il y a eu des politiques publiques très ambitieuses dans le domaine du travail, dans le domaine de la fiscalité, pour mieux redistribuer les richesses, pour protéger les travailleurs, pour aussi réformer la finance, qui était déjà dévastatrice à l'époque. Voilà. Et ce capitalisme-là, il n'existe plus aujourd'hui. Il a été remplacé à la suite des réformes néolibérales qui ont eu lieu dans le dernier quart du siècle dernier, lancées par Thatcher, Reagan, etc., mais qui ont été reprises malheureusement en Europe, dans nos pays, en France par exemple, eh bien, aboutit à un capitalisme mondialisé, un capitalisme financiarisé, extrêmement dangereux, extrêmement instable, qui a donné lieu à la crise financière de 2007-2008, mais cette crise qui n'a cessé de prendre des formes différentes et de rebondir. Une crise financière qui est devenue ensuite une crise économique avec une récession qui a fait monter le chômage, qui a augmenté la misère sociale. Ensuite, on s'est aperçu que la dimension écologique était absolument fondamentale et qu'il fallait absolument la prendre en compte et que le capitalisme aggravait la dégradation, par exemple, de la biodiversité, dégradait le climat. Et puis, la crise sanitaire qui n'est pas indépendante de la crise de la surexploitation de la planète, parce que une partie des pandémies que nous subissons sont ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. Et pourquoi ? Mais parce qu'avec la déforestation, avec la dégradation de la biodiversité, eh bien, on a des maladies comme ça qui circulent. Et comme on est dans un monde globalisé, eh bien, dès qu'il y a une pandémie quelque part à la planète, à un endroit de la planète, elle se transmet immédiatement sur le reste de la planète parce que avec les transports, avec les chaînes de valeur, avec les transports de marchandises, les transports de personnes, on communique complètement. C'est l'hypermondialisation. Voilà. Et donc, il est important pour nous, ATTAC, de bien prendre en compte cette dimension-là et ça nous aide, ce cadre-là d'analyse, nous aide ensuite à bien cibler nos campagnes, nos luttes et à les coordonner parce que on voit qu'on est solidaire de ce qui se passe en Afrique ou de ce qui se passe en Amérique latine ou en Asie. Tous les continents sont concernés et ça nous aide à d'abord à être plus fort si on arrive bien sûr à travailler ensemble et aussi ça nous aide à montrer qu'il y a un point commun, quoi. Nous sommes un peu victimes du même système qu'il faut absolument contre lequel il faut absolument lutter et l'altermondialisme c'est ça, c'est dire qu'on est pour une autre mondialisation, qu'on est pour une autre organisation, qu'elle est possible, un autre monde est possible, disons-nous, mais qui est évidemment à l'opposé du monde qui résulte du système, du fonctionnement du système capitaliste.
Parmi les organisateurs et organisatrices, nous avons rencontré Alice Picard, qui est membre du CA et du bureau d'ATTAC France. Alice nous explique la jeunesse de l'ESU et les spécificités de l'organisation d'université d'été européenne.
L'idée, c'est quand même que ce ne soit pas étiqueté ATTAC. Donc, il fallait que qu'à l'échelle de chaque pays, on arrive à embarquer nos partenaires. Donc, en France, c'était peut-être un peu plus facile, au sens où on a déjà l'expérience des universités des mouvements sociaux. Bon, en même temps, il fallait les convaincre à nouveau que ça allait pas être un événement ATTAC. Et ça, peut-être qu'on n'y a pas réussi suffisamment. Et puis, tous les ATTAC ou toutes les organisations qui se sont impliquées dans le noyau allemand, toutes ces organisations-là n'ont pas des réseaux forcément très solides, ou en tout cas pas solides, mais l'habitude en fait de travailler comme ça à l'échelle européenne. Donc c'est la première difficulté en fait. Il faut avoir une habitude de travail en commun. En même temps, c'est aussi par ces événements qu'on l'a créé. Hein. C'est pas ça se décrète pas une habitude de dialogue. Et puis en fait après, selon les pays. Les réseaux ne sont pas les mêmes. Par exemple, en Allemagne, ils ont peut-être un angle d'ATTAC qui est plus articulation entre partis politiques et mouvements sociaux. Alors qu'en France, depuis quelques années, ce qui nous enthousiasme beaucoup à ATTAC, c'est l'expérience de plus jamais ça, qui n'a rien à voir avec les partis politiques, qui est plutôt comment on dialogue entre associations, syndicats, et peut-être en particulier entre syndicats et mouvements écologistes. Royaume-Uni, ils vont encore avoir une culture politique qui est différente, et donc chacun des réseaux nationaux est le produit d'une histoire, et ce qui va être compliqué, c'est de faire converger ces différentes histoires, ces différentes cultures militantes,
Après, effectivement, l'administration qu'il y a derrière, par exemple, à quel moment on a un visa, à quel moment il faut s'inscrire, tout ça, après, ça ne concorde pas pile poil. Quoi.
Ouais.
Mais ça fait partie des choses à résoudre.
Ouais, et tu parles des visas, et c'est vrai que ça, c'est une des grosses difficultés quand même, parce que ce soit la France ou l'Allemagne, ces derniers temps, les différents gouvernements ne sont quand même pas connus pour être les plus progressifs. Et donc, une université d'été européenne, c'était l'occasion aussi d'en faire une université d'été internationale, où oui. On aurait pu faire venir des personnes de nos réseaux issues des Suds. Et en fait, la difficulté, c'est qu'ils n'ont pas de visa, ou alors on leur propose un rendez-vous, une semaine avant, voire pendant l'université d'été. Donc, autant dire que, ils ne vont pas pouvoir participer. Et ça, c'est vrai que c'est très frustrant de dépendre à ce point-là des politiques restrictives de nos pays respectifs.
On a fait à peu près le tour, à moins que tu aies autre chose à ajouter.
Peut-être donner un petit peu envie par rapport au programme que j'ai regardé. Regardé. Et j'ai une à six catégories, mais les deux dernières ressemblent à rien. Mais on va avoir des trucs très classiques je sais pas si je m'adresse plutôt aux personnes qui suivent ATTAC, finance et écologie, stop Amazon, donc tout ce qui est multinational, accord de libre-échange, avec cette année la question des brevets, puisque encore une fois, justice à l'échelle internationale, on aimerait que les pays du Sud puissent produire leurs propres vaccins. Et que ce ne soit pas un monopole des industries pharmaceutiques. Et puis la question qui se pose à chaque fois qu'on se retrouve, c'est quelle analyse on peut faire du capitalisme, puisque c'est vraiment un système économique qui a une capacité d'adaptation qui est assez inouïe. Et là, dans le programme, se pose plusieurs fois la question de que fait la numérisation, en quoi elle permet au capitalisme d'étendre encore son emprise sur nos sociétés.
Merci Alice pour ces explications. Donc, tu avais retenu dans le programme deux points importants parmi tant d'autres. Le capitalisme, c'est fondamental et nous avons écouté Dominique Plion à ce sujet. Et également la levée des brevets. Maintenant, c'est Masasi Diou, éthiopienne, qui va donner son avis sur la levée des brevets.
Je m'appelle Maaza Sioum, je suis éthiopienne. Je travaille pour la People's Vaccine Alliance, l'alliance du peuple pour le vaccin, je dirais en français. Et c'est une alliance globale qui a pour l'instant environ 100 membres à travers tout le monde, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, Amérique du Sud, l'Afrique, les Caraïbes, l'Asie. Et on travaille avec des organisations qui sont ciblées sur les questions d'équité, sur le vaccin pour le COVID-19, mais aussi les traitements et les diagnostics pour assurer que ça soit disponible pour tout le monde et sans coût. Alors quand on dit People's Vaccine, le vaccin vraiment pour le peuple, que ça soit disponible pour tout le monde. Et je suis ici en Allemagne, à Mönchengladbach cette semaine, pour la première fois en Allemagne, pour participer à l'European Summer University, en français on dirait quoi ?
L'université d'été européenne.
Voilà, pour la première fois, pour participer dans deux séances sur l'accès à la santé pour tout le monde, health access, que ce soit le COVID-19, mais aussi tous les autres problèmes qu'on expérience à travers le monde avec les problèmes de santé et le manque d'accès aux produits dont on a besoin. Pour moi, je pense que le problème le plus troublant, c'est le fait qu'il y a beaucoup de pays où on pense que le COVID-19 est derrière nous. Mais malheureusement, on a toujours des pays à travers le monde. On a 10 pays où on n'est même pas à 10% vaccinés contre le COVID. Et ça, c'est dans un monde où il y a aussi plein de pays pour l'instant qui sont déjà à la 4e ou à la 5e dose de vaccin. Alors, ni l'égalité, malheureusement, peut mener à encore de nouveaux variants du virus, comme on a vu avec Delta, comme on a vu avec Omicron, et le fait que les gens sont toujours en train de mourir du COVID-19. Et on a l'impression que en Afrique, dans d'autres pays, qu'on ne meurt pas de Covid. Et le fait, c'est qu'on n'a pas accès au diagnostic. Alors, ça veut dire que les gens meurent sans qu'on sache qu'ils sont morts du Covid. Et il y a des données maintenant qui nous montrent qu'en fait, dans les pays pauvres, les gens meurent à un taux beaucoup plus élevé du coronavirus qu'en France ou qu'en Allemagne ou en Amérique du Nord. Alors ça, c'est un problème qui est très troublant. Aussi, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment été très affectés par la pandémie, pas seulement par la maladie elle-même, mais par le fait que les femmes ont beaucoup d'expérience avec les violences qu'elles ont subies pendant cette période, qui sont montées, les taux de violence, le fait que les filles ont été sorties de l'école, qu'elles ne rentrent plus à l'école. Alors, s'il y a beaucoup de problèmes, on pourrait parler toute une heure que sur ça, les problèmes sociaux, économiques qui sont venus à cause du manque de vaccins et le fait que le Covid a vraiment affecté beaucoup de vies à travers le monde. Alors, on a toujours beaucoup de travail à faire. Ça me fait un peu peur que dans quelques pays, on pense que la pandémie est derrière nous, oui. Mais on a des pays qui sont même pas à 10% vaccinés. Et là, pour l'instant, l'Afrique est un continent qui importe 99% des vaccins qu'il utilise. Pas seulement pour le Covid, mais pour toutes les maladies. Seulement 1% des vaccins qu'on utilise en Afrique sont créés, développés en Afrique. On doit importer tous les autres. Et là, c'est un problème essentiel auquel on doit trouver une réponse. Et pour ça, il y a quand même des projets qui sont en développement, qui donnent un peu d'espoir pour le futur.
Attaque France est structurée en groupe de travail et l'un des groupes de travail est spécialisé pour comprendre le fonctionnement de l'Union européenne. Car même si on a souvent tendance à l'oublier, l'Europe a une influence considérable sur notre vie quotidienne. C'est pourquoi il faut savoir intégrer cette composante européenne dans nos luttes.
Un entretien avec Patrick Faudella, membre d'Attaque, pour parler de l'Europe. Et à la suite, nous écouterons deux militantes du syndicat Solidaire venues à l'ESU.
Donc moi je suis Patrick Faudella et je suis membre du groupe de travail sur le décryptage du fonctionnement de l'Union européenne. Donc c'est un groupe d'Attaque France dont l'objectif est de comprendre et de connaître comment fonctionne l'Union européenne. L'Union européenne induit complètement les politiques nationales. Dans l'atelier qui a eu lieu hier, on a pointé cette question-là, c'est le fait que l'Union européenne décide et dit « voilà, tel pays, vous devez faire ça ». Il y a un instrument qui est terrible, qui s'appelle le semestre européen. Et le semestre européen, c'est un texte qui, tous les ans, est envoyé par la Commission européenne et qui dit aux États « voilà ce que vous devez faire cette année ». Et par exemple, sur le semestre européen 2022, pour la France, c'est écrit clairement, il doit y avoir la réforme des retraites, il doit y avoir la réduction du... Alors, d'abord, la réforme des retraites, c'est la diminution du nombre de retraites, de types de retraites différentes. Donc, il faut rassembler tout ça. Il faut qu'il y en ait qu'un ou deux ou trois, mais très peu, d'une part. Et il faut, d'autre part, que le budget soit équilibré, donc réduire les dépenses publiques, etc. C'est écrit noir sur blanc. C'est la mission que l'Union européenne assigne à la France. Vous devez faire ça.
Je m'appelle Dalila, je suis secrétaire de section d'un syndicat qui s'appelle Solidaire Finances Publiques dans le Maine-et-Loire. Voilà, je viens aux universités européennes pour, j'ai envie de dire, asseoir peut-être mes connaissances sur les rouages qui sont mis à l'œuvre dans ce monde capitaliste et comment finalement lutter contre ce monde capitaliste et essayer de construire une autre alternative à ce monde capitaliste. Ce qui est pas simple, ou ce qui est très ambitieux, je sais pas. Mais en tout cas, en venant ici, moi, j'y apporte ce que je sais en termes de justice sociale et justice fiscale, par exemple, compte tenu de la sphère de compétences dans laquelle j'évolue. Mais je viens y chercher une autre information, par exemple, en participant au forum sur la santé ou à des ateliers comme Stop Amazon, qui va déconstruire ou qui vont déconstruire des modèles qu'on est censé combattre. Donc il nous faut des billes. On vient les chercher ici et puis on repart reboosté, me semble-t-il.
Donc moi, c'est Agnès. Alors, sur les raisons pour lesquelles je viens aux universités d'Attaque, c'est la grande richesse des réflexions, la grande richesse des intervenants, qui me permet déjà d'actualiser mes connaissances, puis surtout de découvrir plein de problématiques. Alors, découvrir des problématiques pas forcément nouvelles, mais en tout cas de les approfondir, de les comprendre. On vit dans un monde où on a une multiplicité d'informations, on ne sait plus qui écouter, on ne sait plus quoi regarder, on ne sait pas qui comprendre. C'est intéressant, les acteurs sont structurés, enfin leur argumentaire il vient pas de nulle part, il y a vraiment toute une réflexion derrière, donc on sait aussi que l'information qu'on vient chercher, elle est sereine, elle est sécurisée. Enfin, sereine, non, c'est-à-dire que on n'a pas que des bonnes nouvelles. Mais c'est sain, voilà, c'est sain aussi d'affronter le monde tel qu'il est. Et moi, une des raisons pour lesquelles je suis très heureuse d'être ici, c'est que on nous dit souvent qu'il faut questionner, remettre en question notre façon de penser. Et je pense qu'en fait, quand on est un petit peu sur cette philosophie comme celle d'Attaque, on est de toute façon continuellement questionné par le monde dans lequel on vit. On passe notre temps à se défendre intellectuellement contre des attaques, mais systématiques. Ne serait-ce que par notre entourage qui, aussi bienveillant puisse-t-il être, n'accède pas à certains concepts économiques. Voilà. Ici, on peut se ressourcer, mais exactement comme tu viens de le dire, on peut se ressourcer et on peut avancer sans être dans la défense intellectuelle permanente et on peut vraiment approfondir les choses sereinement. Et voilà, je pense que le terme de sérénité, il est non pas attenant au sujet et aux conclusions qui en sont faites sur les constats, mais sur la façon dont moi j'appréhende les choses. Je suis sereine pour avancer sur mes sujets. Donc voilà, ouais, j'adore ça.
1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 d'Attac va aborder un des nombreux aspects de ce thème. Nous invitons les auditeurs et les auditrices intéressés par plus d'explications à explorer le site d'Attac France, mais aussi celui d'Attac 44.
L'enregistrement de cet entretien a été fait dans le patio de l'université, ce qui explique le petit bruit de fond.
Eh bien, il y a un atelier sur la justice fiscale organisé par Attac France, Attac Espagne et Attac Belgique. Sur la justice fiscale au sens global, mais on parlera évidemment de lutte contre l'évasion fiscale. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est qu'à la base, Attac, dans sa dimension, y compris internationale, est née autour d'une idée fiscale, qu'il fallait taxer des transactions financières, qu'il fallait les taxer parce qu'il y avait une forte spéculation financière, il fallait favoriser l'investissement, mais surtout dégager de recettes pour financer les services publics et la protection sociale. Et puis on s'est intéressé au fil du temps à la façon dont les stratégies d'optimisation et d'évasion fiscale se mettaient en place, et on a pu développer, plusieurs publications, non seulement un argumentaire, mais aussi des propositions. Mais pour être le plus efficace possible, dans le mouvement social, il a besoin de s'organiser. Et donc l'objectif de ces ateliers, mais qu'on a dans toutes les universités d'été, qu'elles soient françaises ou européennes, c'est d'essayer d'échanger aussi avec nos amis, d'autres organisations, pour déjà faire le constat de ce qui se passe dans chaque pays, et puis évidemment au niveau de l'Union européenne et au niveau mondial, et puis essayer de voir comment on peut agir, si possible, de concert, si on peut porter des propositions ensemble, si on peut mener des actions ensemble, parce qu'on est quand même plus fort à plusieurs. Donc l'idée générale, c'est ça, puis ça nous aide aussi à progresser dans la réflexion et dans les modalités d'action.
Alors, évasion fiscale, on peut aussi parler de ça, surtout de ça, d'une dernière information qu'on a eue, c'est l'Irlande qui croule sur les recettes fiscales et qui nous manque cruellement, nous, d'autres pays d'Europe.
Oui, alors il y a plusieurs dimensions à l'évasion fiscale. Il y a déjà ce qu'on appelle l'optimisation agressive. C'est un terme un peu poli pour dire que c'est légal, même si ce n'est pas tellement légitime et moral. C'est l'excuse invoquée, notamment par les multinationales, et puis il y a l'aspect fraude fiscale. Alors, dans tout ce qui est l'évitement de l'impôt, parce que c'est ça dont on parle en fait, l'évitement de l'impôt, par définition, ce sont des pertes fiscales pour de nombreux États, de très nombreux États, je reviendrai sur le cas de l'Irlande, et à partir du moment où on a moins d'argent, ben, en financement les services publics, on compense une partie de ce qui est manqué par des impôts, comme la TVA par exemple, ou les impôts sur la consommation. Donc ça accroît les injustices fiscales. Et puis globalement, tout ça aussi est révélateur du mouvement de concurrence fiscale depuis maintenant les années 70. Ce qu'on constate un peu partout dans le monde, c'est que l'impôt sur les sociétés baisse, les impôts sur le patrimoine baissent, les impôts progressifs sur les revenus et sur les patrimoines baissent également. Et donc ça alimente les inégalités, le mécontentement, etc. Dans tout ce mouvement-là, l'Irlande est un peu un cas à part parce qu'ils ont été très tôt très offensifs dans le dumping fiscal. Ils ont un taux d'impôt sur les sociétés depuis des années de 12,5%. Ce qui fait que comme ils sont quand même au cœur de l'Europe, ils bénéficient d'une certaine manière d'implantation d'entreprises, je pense à Airbnb ou d'autres, qui payent quand même un impôt sur les sociétés. Et par rapport à la taille du pays qui est assez petit, mais finalement, ils drainent des recettes fiscales qui manquent ailleurs. Mais il ne faut pas croire que tous les paradis fiscaux et que toutes les stratégies de baisse d'impôts sur les sociétés fonctionnent. En réalité, là où c'est un cas particulier, c'est que comme tout le monde avait un impôt sur les sociétés quand même supérieur, même si tout le monde le baisse, eux, ils ont bénéficié de cet avantage-là. Et ce qu'a fait dire souvent aux néolibéraux, ben, voyez, l'Irlande, ça marche, il faudrait que ça marche ailleurs. Mais sauf que si tout le monde fait ça, ben, personne ne s'y retrouve. Et au-delà de tout ça, je pense que même l'Irlande est victime de l'évasion fiscale. Peut-être que les nombreuses recettes qu'ils ont seraient encore plus importantes s'il y avait, par exemple, des mécanismes, comme on dit, attaque de taxation unitaire, bon bref, on va dire une forme d'harmonisation fiscale où, finalement, au bout du bout, les multinationales payent leur juste part, par exemple. Et puis l'Irlande est aussi victime de l'évasion fiscale des particuliers. Il ne faut pas l'oublier, elle reste quand même importante. Les paradis fiscaux dans le monde existent. Alors, l'Irlande en est un pour les sociétés, notamment, mais il y a des paradis fiscaux, déjà au sein de l'Union européenne, mais surtout au-delà. Bref, le mécanisme d'évitement d'impôts touche tous les États, même si en ce moment, l'Irlande s'en sort un peu mieux que les autres.
Nous avons parlé des luttes fondatrices d'ATTAC, mais nous ne pouvons pas passer à côté des mouvements de lutte présents aujourd'hui qui traversent la société. Cet été s'est tenu un forum sur l'intersectionnalité ainsi que des ateliers thématiques sur ces luttes.
Et maintenant, nous allons écouter Muriel qui va, elle, nous parler des luttes féminines.
Bonjour, je suis Muriel Gilbert, je suis co-déléguée de l'Union syndicale solidaire. Et je suis ici aux universités d'été des mouvements sociaux à Mönchengladbach. Donc il y a un atelier qu'on a eu ce matin sur la grève féministe. Comment l'organiser? Qu'est-ce que ça veut dire faire une grève féministe? Bien sûr, c'est le 8 mars, mais c'est des combats aussi tout au long de l'année. Donc ça nous a permis de réfléchir sur la notion de grève. Sur comment en fait concrétiser cette notion de grève féministe. Ça va bien au-delà de la grève du travail. Et en même temps, ce que j'expliquais ce matin, c'est qu'on a réussi, en tout cas en France, en tout cas pour mon syndicat et pour d'autres syndicats comme la CGT et la FSU, à imposer l'idée de cette grève féministe lors du 8 mars de la Journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Mais maintenant qu'on l'a décidé, il faut la construire. Il faut que ça se traduise dans nos syndicats, dans nos secteurs professionnels, par des vraies grèves. Des vraies, entre guillemets, parce que voilà, il n'y a pas que des grèves du travail. Mais si on, dans notre propre univers syndical, si on n'arrive pas à imposer la grève, c'est aussi compliqué. On ne peut pas se contenter de dire que oui, ça va au-delà du travail, bien sûr. Puisque c'est la grève du soin, c'est la grève de la consommation, c'est la grève de l'éducation. Ça a plusieurs dimensions, mais enfin, moi je sens qu'au sein de Solidaires, il faut qu'on, même si ça avance, il faut qu'on trouve les moyens en fait, que le 8 mars arrivant, bah, l'ensemble des femmes, mais aussi des alliés hommes féministes, on soit en grève avec des taux de grève. Donc ça, c'est pas évident. C'est quelque chose que je vais m'employer à construire avec, bien sûr, plein d'autres. Et c'est toujours intéressant de voir aussi dans d'autres pays. Là, en Allemagne, ils ont une notion de qui peut faire grève. C'est-à-dire qu'en fait, en Allemagne, un mouvement féministe ne peut pas décréter une grève. C'est illégal. Parce qu'ils considèrent que c'est un fait politique et que c'est, du coup, ça n'a plus rien à voir avec, un mouvement féministe, alors que bon, ça a tout à voir. Mais ça, voilà, de confronter aussi voilà, ce qui se passe dans différents pays, forcément ça nous inspire et ça nous donne aussi de la force pour continuer. Ce qui se passe en Suisse, par exemple, sur la grève féministe, c'est assez édifiant. Elles réussissent, en fait, au bout de plusieurs années à construire quelque chose, alors qui n'est pas le 8 mars, pour le coup, qui est plutôt qui est en juin, parce que ça commémore aussi une grande grève sur l'égalité salariale qu'elles ont réussi à mener en Suisse à ce moment-là. Mais là, du coup, elles nous proposent aussi, les Suisses, de nous rencontrer et d'organiser, en plus du 8 mars, une grève aussi féministe le 15 juin, en 2023. Donc voilà, je donne ces exemples parce que ça montre que voilà, c'est quelque part un lieu un peu de bouillonnement, d'effervescence, et qui donne des pistes aussi concrètes, hein, pour avancer dans nos luttes.
Avant d'écouter Marie-Dominique et Laurence, je tiens à remercier toutes et tous pour l'accueil, la gentillesse, la confiance qui m'ont été accordées tout au long des enregistrements pour cette émission.
Bon, alors moi je suis Marie-Dominique Verne, je suis française d'origine mais j'habite en Allemagne depuis 50 ans, d'où mon petit accent allemand. Et je fais partie d'ATTAC Allemagne depuis 20 ans. Et dans ce cadre, j'ai toujours ou très souvent participé à des rencontres internationales. C'est quelque chose que je trouve très intéressant parce que, en ce qui me concerne, bien sûr, je retrouve beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai travaillé toutes ces dernières années. Et ce sont des échanges qui sont d'autant plus intéressants qu'il y a eu quand même toute la période Covid où on ne s'est pas rencontrés. Et ça fait une énorme différence de se rencontrer directement plutôt que de se voir par conférence, par visioconférence. Bon, qu'est-ce que j'attends de cette université d'été ? Bien sûr, un renforcement des synergies, un renforcement des réseaux. En ce sens, j'ai participé surtout aux activités sur la santé. Et c'est un domaine que je vais continuer à travailler. Voilà.
D'abord, je suis Laurence Boubet, je suis à Attac France, au bureau d'Attac France. Pourquoi je suis là? Parce que les universités d'été, c'est toujours des moments très, très sympathiques, très riches, où on apprend plein de choses. Là, c'est vrai qu'on est dans un contexte un peu particulier où on a vraiment besoin de se remobiliser, de trouver des pistes pour pouvoir faire repartir toutes les mobilisations, que ce soit les mobilisations sociales, les mobilisations pour le climat, et de trouver les moyens de faire redémarrer la machine qui a été complètement arrêtée par cette pandémie.
Toi, tu as présenté un atelier sur Amazon. Est-ce que tu dirais que ce combat contre Amazon avance bien?
Est-ce que ce combat avance bien? Alors, oui et non. Alors, oui, on a quand même enregistré là en 2022 un certain nombre d'avancées, de victoires. On a plusieurs luttes victorieuses contre des projets d'entrepôts. Ce qui est très difficile avec Amazon, c'est que quand on commence à dénoncer Amazon, tous ces méfaits qui sont nombreux, la réponse qui est faite, c'est « ouais, mais qu'est-ce qu'on fait à la place? C'est quoi les alternatives ?» Et en fait, la difficulté, c'est que Amazon, c'est d'abord le symbole de tout un monde, et c'est le symbole de tout un monde dont on ne veut pas. Et donc, c'est quoi l'alternative? Ben, c'est un autre monde qui n'a rien à voir avec le monde d'Amazon.
Une approche novatrice, l'Agora des habitants de la Terre. C'est une association qui a été créée en 2018 en Italie. Elle s'engage à contribuer à la construction de l'humanité, ce qui signifie une sauvegarde de la vie de la Terre, notamment l'eau et la santé. Tout ceci en s'appuyant sur des notions de bien commun.
Riccardo Petrella, président de l'Agora des habitants de la Terre et à l'initiative de celle-ci, nous accorde un petit entretien.
C'est une tentative depuis 4 ans d'essayer de créer une conscience de la reconnaissance de l'humanité en tant que sujet, c'est créer les conditions matérielles, institutionnelles et légales pour que l'humanité soit reconnue. Alors c'est ça l'Agora des habitants de la Terre, mais après nous sommes plutôt assez concrets dans le sens qu'on a mis deux choses au cœur de notre bataille politique, qui est une bataille culturelle, qui est une bataille morale, qui est une bataille spirituelle, qui est une bataille sociale. C'est d'une part la privatisation de la vie, donc le fait que nous ne sommes plus éduqués à avoir la notion du bien commun. Le bien commun, pas seulement de notre village. Pas seulement le bien commun, c'est un four collectif, quoi. Ou un bien jardin urbain, non? Ça, c'est tout le monde accepte ça, non? Mais le bien commun, au-delà de nous-mêmes, quoi. Le bien commun de la santé pour tous les habitants de la Terre. Bon, on a abandonné ça. On n'est pas éduqué à ça. Le bien commun est, encore une fois, encore plus abstrait, désormais, que l'humanité. Nous, comme Agora, on veut, pas des exemples concrets, notamment l'eau et la santé, se battre pour réconscientiser, réenchanter le monde, si on peut dire, réenchanter le monde sur le bien commun. La finance a trahi, parce que c'est les mêmes utilisateurs, pas seulement producteurs de la finance, qui ont accepté que la finance ne soit plus un moyen de lier les activités d'épargne et les activités d'investissement. C'est ça la finance. Non ? Parce que la finance, au contraire, doit être un moyen au service des finalités. Et c'est ça qui est important, bien commun et finance. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de mesures concrètes à prendre. Aussi parce que la finance, comme l'absence du bien commun, ne permet pas aux gens de se rendre compte de toute une série de choses. Par exemple, aujourd'hui, la finance, eh bien, c'est le seul secteur de l'économie mondiale qui n'est pas réglé. Et les autres réglés. Le football est réglé par FIFA. La finance est le seul secteur où les citoyens, pas seulement les dirigeants, mais les dominants, ont réussi à dire qu'il n'y a pas de régulation politique à introduire. Et en effet, par exemple, la finance, la bourse de Chicago, le 7 décembre 2020, a décidé que l'eau doit faire partie désormais des marchés des dérivés, des marchés du futur. Et si ça continue comme ça, d'ici 5-10 ans, les seuls qui décideront le prix de l'eau en France ou les prix à Marseille de l'eau, ben, sera un prix mondial qui sera établi par le marché boursier des dérivés, c'est-à-dire des spéculations. On fait l'argent sur l'argent. Et ça, c'est terrible.
Nous avons entendu plusieurs extraits de la chanson « Motivée » de Zebda, et vous aurez peut-être reconnu les Rosie qui interprètent « Respecte-moi ». Maintenant, dernier entretien de cette émission, on laisse la parole à Manon Aubry qui était présente pour la clôture de l'Université d'été européenne.
Je suis Manon Aubry, députée européenne et coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen. J'ai été invitée aux universités d'été des mouvements sociaux parce que je pense qu'on est aujourd'hui à un point de bascule, un tournant assez important de savoir quelles peuvent être les batailles à venir conjointes entre les mouvements politiques de gauche et les mouvements sociaux. Je le dis d'autant plus que je viens moi-même des mouvements sociaux en ayant travaillé à Oxfam avant d'être députée européenne. Et je crois qu'il y a plein de batailles à mener en commun, que ce soit sur le climat, que ce soit sur la question de la lutte contre l'évasion fiscale, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur puisque c'était celui sur lequel je travaillais, que ce soit sur les questions économiques, par exemple sur la taxation des super profits, qui est portée aussi par des ONG et des associations. Sur ces sujets-là, on a besoin d'une conjonction de ces deux mondes-là, que les pratiques associatives infusent le monde politique. Moi, j'assume de dire que je suis une députée activiste, et à l'inverse, que les associations assument de pousser le monde politique jusqu'au bout pour, à la fin, obtenir des avancées. Et parce que moi, c'est une des raisons pour lesquelles, in fine, je me suis engagée en politique, c'est que pour changer la vie des gens, on n'a rien trouvé d'autre que de changer les lois. Et pour changer les lois, il faut des acteurs politiques qui les votent, mais il faut aussi et d'abord des mouvements sociaux qui les poussent. Et je suis assez... j'allais utiliser un terme anglais, mais reconnaissante du rôle et de l'énergie qui est insufflée par les mouvements sociaux pour obtenir ces avancées. Vous savez, on dit souvent que c'était, je sais plus de qui est cette phrase, mais qu'une idée est souvent, d'abord elle est moquée, ensuite elle est combattue, et à la fin elle paraît normale. C'est le cas de la taxation des super profits, c'est le cas de la lutte contre l'évasion fiscale, c'est le cas de la sobriété énergétique, tous ces combats que l'on mène en commun. Et donc, ensemble, en poussant le mouvement associatif et politique, j'espère qu'on pourra obtenir des avancées. En tout cas, il y a urgence, donc c'est ça qu'on va faire.
On espère que cette émission vous a intéressé et permis d'en savoir plus sur les universités d'été, des mouvements sociaux et des solidarités. Ces manifestations ne sont que des points de passage pour informer, motiver et inciter à la lutte. Merci à Pierre, merci à Jet FM, merci à toutes et tous. Nous vous retrouverons le 4 décembre pour une émission sur la ruralité.
lâche rien, on lâche rien.
Nous sommes là, nous serons là. On l'a été pour contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et on le sera contre le projet d'Amazon. Merci.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde.
Autre monde, autre monde, autre zone. Un écho des luttes à retrouver tous les deux mois sur Jet FM.
On n'avait pas la CBA papa, SDF chômeur ouvrier, paysan immigré.
Une émission proposée par Attaque 44 pour mieux comprendre les luttes du local à l'international.
C'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien.
Autre monde,
autre monde, autre zone.
Autre zone.